pouvait se transformer en une tornade, en un cyclone, qui pouvait tout détruire. Il comprenait bien ce que Jésus voulait dire. Et c'est pourquoi il leur dit ces paroles. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24. Et vous savez, on peut même lire à partir du verset 21. Parce qu'au verset 24, il est dit, c'est pourquoi. Quiconque entend ces paroles, c'est pourquoi. Autrement dit, il y a quelque chose qui vient avant, n'est-ce pas vrai? C'est pourquoi. Quelque chose qui vient avant. Alors, lisons cela juste en passant. Verset 21. Jésus dit, 7:21, Matthieu. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, au jour du jugement, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Qu'est-ce que vous diriez-vous quand quelqu'un vient et vous dit cela? Aujourd'hui, un pasteur ou un prédicateur dirait, mais c'est formidable, Dieu est avec toi. Mais tu as un tel succès que tout ce que tu fais, ça vient de Dieu. Aujourd'hui, on est tellement impressionné par le succès, n'est-ce pas vrai? Et même les chrétiens, et beaucoup même de prédicateurs, sont impressionnés par cela. Mais Jésus, croyez-vous, il n'a pas la même conception des choses. Il n'a pas été impressionné par ces paroles. Mais Seigneur, on a chassé des démons, on a fait des miracles en ton nom. Pour Jésus, le succès n'est pas un test de validité. Il y a un autre test de validité de notre foi. Voici ce qu'il leur dit. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. On pourrait aussi traduire, je ne vous ai jamais approuvé. On pourrait traduire cela, je ne vous ai jamais approuvé. Il n'y a jamais eu mon approbation. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Et le mot iniquité, il veut dire aussi ceux qui font le mal, ceux qui s'éloignent, qui enfreignent la parole, qui ne considèrent pas la parole de Dieu comme l'autorité finale. Ils y croient, ils la prêchent, mais ils ne la considèrent pas comme l'autorité finale. Ils font un peu avec cette parole ce qu'ils veulent. Et Jésus leur dit, attention, si moi j'ai pu bénir, ce n'est pas parce que votre ministère s'il y a eu quelques miracles parce que vous avez prêché la parole, mais ça ne veut pas dire que moi j'approuvais tout ce que vous disiez. Je confirmais ma parole et c'est tout. Lorsqu'elle était prêchée. Mais ce n'était pas pour vous approuver vous-même, car vous-même vous annonciez des choses qui n'étaient pas selon ma parole. Et c'est là qu'il les reprend en disant, attention, ne croyez pas parce que vous avez des miracles qu'un jour dans le ciel vous sera grand ouvert. Voilà un homme qui avait beaucoup de miracles. Vite, 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 vite. Les anges, venez tous. Saluez-le. Non. Le test sera, est-ce que tu as prêché ma parole? Ce ne sont pas ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font ma volonté. Voyez-vous, il ne faut pas qu'on se laisse impressionner par le miracle ou le succès. Ce qui doit nous impressionner, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est le test divin. C'est le test final. Mais il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui font fi de cette parole, et qui disent, puisqu'il y a des miracles, même au nom de Jésus, et c'est ça la séduction, même au nom de Jésus. Alors Jésus aurait pu dire, mais c'est dans mon nom, vous l'avez fait, c'est très bien, tout va très bien. Voyez-vous, ça ne rentre pas. Ici, tout le monde crie Alléluia, mais là-haut, ce ne sera pas la même chose. Parce que vous êtes des ouvriers d'iniquité, autrement dit, vous faites de la parole ce que vous voulez. Quand elle vous arrange, vous la prenez, et quand elle vous dérange, vous la mettez de côté. Et vous faites toutes sortes de compromis. Mais moi, je n'approuve jamais cela. Si un jour j'ai approuvé quelque chose, c'est ma parole que j'ai approuvée. Mais pas vos erreurs, pas vos hypocrisies, pas vos compromis, jamais. Et c'est pourquoi maintenant il en arrive, il y a ce contexte-là. Et maintenant il leur dit, c'est pourquoi. Alors il leur dit, attention sur quoi vous bâtissez. Est-ce que vous bâtissez votre maison sur les miracles? Sur le surnaturel? Pour le surnaturel? Dieu est un Dieu de miracles. Nous croyons au miracle, n'est-ce pas vrai? Mais nous ne devons pas suivre les miracles. C'est le Seigneur que nous devons suivre. Alléluia! Dans Marc 16, il est dit que le Seigneur confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. La parole venait toujours avant. Et les miracles confirmaient la parole. Amen. Voyez-vous, la parole venait toujours avant. Si la parole ne vient pas avant, alors c'est le chemin de la séduction, de la tromperie. Et ne pense pas qu'un jour tu pourras dire au Seigneur, « Seigneur, j'ai fait beaucoup de miracles en ton nom. » Si tu as joué avec sa parole, si tu as fait des compromis, tu savais la vérité et tu ne l'as pas dite, tu l'as cachée pour faire plaisir à Pierre, à Paul, pour faire plaisir à l'un ou à l'autre, devant le Seigneur, nul n'échappera, y compris et à commencer par les prédicateurs. C'est pourquoi je veille toujours, peu importe les conséquences, à être fidèle à sa parole. On s'attire des ennemis, mais le Seigneur, c'est son problème. Il s'en occupe. Nous, nous devons chercher à faire plaisir au Seigneur et non pas aux hommes. Amen. Je préfère avoir les hommes sur le dos que d'avoir le Seigneur sur le dos. C'est pourquoi, écoutez bien maintenant, quiconque entend les paroles que je dis, voyez-vous, tout maintenant va se résumer à cette écoute de la parole et à la mise en pratique. Oui, il n'est plus question de discuter. Ah oui, mais on peut ceci, cela. Voilà. Il y a même des prédicateurs qui maintenant commencent à dire qu'en dehors de la Bible, Dieu peut faire encore des choses. La Bible, c'est la parole de Dieu, mais on peut ajouter certaines choses encore qui ne sont pas dans la Bible. Et j'ai même entendu une fois quelqu'un dire, mais Jésus, il a fait des miracles. Tous les miracles ne sont pas dans la Bible. Alors donc, il a fait beaucoup de miracles que pour dire, il peut encore faire beaucoup de choses qui ne sont pas dans la Bible. Voyez-vous la séduction. Question de doctrine. Il n'y a pas de nouvelle doctrine. Question de miracle. Il n'y a pas de nouveau miracle. Il y a ceux qui sont dans la parole de Dieu. Sinon, il n'y a plus de contrôle. Vous êtes d'accord avec moi? Chacun peut venir dire, et moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai fait cela, et tout ça encore des Écritures. Il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de barrière. C'est la séduction totale. C'est pourquoi Jésus nous a donné cette parole. Est-ce votre attitude à l'égard de la parole, c'est ce qui révèle vraiment votre attitude à l'égard de Jésus. C'est là un point très important. Il y en a qui disent qu'ils aiment Jésus, mais qu'ils négligent la parole, ça n'existe pas. Si tu aimes Jésus, tu garderas sa parole. Amen. Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Tu ne peux pas dire, moi j'aime Jésus, et que je néglige, ou je tords sa parole, ça n'existe pas. C'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis, et les met en pratique. Et nous, maintenant, Jésus vient aux choses précises. Parce qu'un peu avant, il avait des gens, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, beaucoup Seigneur par-ci, Seigneur par-là, et on fait des miracles, et ceci et cela. Mais la parole de Dieu est méprisée, ridiculisée. Et il leur dit, et ce que je dis, elle est mise en pratique, soit semblable à un homme prudent ou un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, elle ne les met pas en pratique. Voyez-vous, là, le test est là. Elle ne les met pas en pratique. Sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme le scribe. Les scribes, quand ils parlaient, c'est comme un enfant qui raconte, qui récite une histoire, ou qui récite sa leçon. 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, 3 plus 3, 4 plus 6 égale 12. Mais un enfant qui récite sa leçon. Les scribes étaient ça, ils récitaient quelque chose. Alors naturellement, ceux qui les écoutaient, ils pouvaient dire quelque chose et penser tout à fait autre chose. Mais quand Jésus parlait, c'était la bouche même de Dieu. Il parlait avec autorité. C'était le juge, c'était le prophète qui parlait de la part de Dieu. Et quand il parlait, ses paroles étaient des paroles qui portaient et qui allaient droit au cœur. Amen. Voilà pourquoi ils étaient frappés. Ainsi, nous voyons là deux maisons. Une s'écroule et l'autre est restée debout. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Alors, bon, on va voir brièvement, j'ai montré ici plusieurs fondements. Le premier fondement d'une foi inébranlable, c'est une foi prudente. Une foi prudente et non aveugle. Le sage était prudent, n'est-ce pas vrai? Pourquoi? Parce qu'il a bâti sur le roc. Il était prudent, mais il a bâti sur le roc. Tandis que le fou, l'insensé, il a bâti sur le sable. Autrement dit, il ne réfléchit même pas à ce qu'il fait. Comment peut-on bâtir une maison sur le sable alors qu'on sait très bien que lorsque la tempête viendra, le vent soufflera, la maison tombera. Voyez-vous, on voit là donc deux genres, deux personnes différentes. L'insensé, qui ne réfléchit pas à ce qu'il fait et qui bâtit sa maison sur le sable. Tandis que l'autre bâtit sa maison sur le... Donc il est sage, il réfléchit à ce qu'il fait. Il y a là déjà une grande différence entre quelqu'un de sage et quelqu'un d'insensé. L'insensé, ça peut être beaucoup de chrétiens, qui croient sans réfléchir, qui ne vérifient jamais ce qu'on leur dit, et qui acceptent n'importe quoi sans aucune réflexion personnelle. Qu'est-ce que tu fais dans le bas? Oui, je fais ça. Est-ce que tu sais pourquoi tu fais ça? Voyez-vous? Ils sont même prêts à faire des choses insensées, sans réfléchir. Maintenant, il se passe tellement de choses dans certaines églises que plus vous êtes ridicule, plus vous passez pour quelqu'un de spirituel. Plus vous faites des choses insensées, plus vous passez pour quelqu'un de bien, de quelqu'un qui, au moins, a quelque chose. Mais plus vous êtes ridicule maintenant, plus vous avez du monde qui vous suit. On va aller là-bas, il paraît que ça roule par terre, ça crie, ça fait n'importe quoi. On va y aller. Voyez-vous, on en a un point où des chrétiens même bâtissent sur le sable. sans aucune réflexion. Ils sont prêts à accepter des choses insensées et ridicules qu'ils n'auraient jamais acceptées il y a 20 ans en arrière, n'est-ce pas vrai? Nous en sommes là. Est-ce que tu es là à croire n'importe quoi? Ah, mais bon, voilà, oui, bah, il faut sauter au plafond, il faut marcher sur la tête, et bien on y va. Il faut tourner comme une toupie, et bien voilà. Il faut rester deux heures par terre, et bien on y va. On est prêt à faire. On est prêt à rire même quand il n'y a rien à rire. Dites-moi un peu, quand quelqu'un se met à rire et qu'il n'y a rien à rire, où est-ce qu'on voit ça? C'est dans les maisons de fous qu'on voit ça. C'est dans les maisons de fous. Vous allez un peu là-bas et vous les voyez dans tous les coins, en train de se raconter. Ils sont là, ils ne se racontent pas des histoires, mais ils nous font n'importe quoi. Ils n'ont aucune raison pour rire et ils rient. Et maintenant, ces mêmes choses ridicules se passent dans les églises. Les chrétiens sont devenus insensés. On accepte n'importe quoi, on bâtit sur le sable et on ne réfléchit pas. On ne se dit pas, mais quand même, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Mais c'est ridicule ce que je fais. Ah non, parce que tel autre chrétien a fait ça, tel pasteur, un grand pasteur, et puis surtout un grand apôtre, un grand prophète a dit, c'est Dieu. Alors on accepte ça. Mais savez-vous que même un grand homme de Dieu peut se tromper? Amen. Je peux me tromper. C'est pourquoi tout doit être contrôlé par les Écritures. Alléluia. Même l'apôtre Paul était contrôlé. Les chrétiens de Bérée le contrôlaient, n'est-ce pas vrai? Ils s'examinaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce que Paul enseignait était conforme à la parole. Et la Bible relève ça. C'est le Saint-Esprit qui relève ça. Que pour dire, voilà ce qu'il faut faire. Même si c'est le plus grand apôtre qui vient et qui vous enseigne, vous devez contrôler. Vous ne devez pas vous laisser impressionner. Le fou, il bâtit sur le sable. Il accepte n'importe quoi, il ne réfléchit pas. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on vous dit dans beaucoup d'églises. Ne discutez pas. Quand vous commencez à vous adresser à un pasteur comme ça, on leur dit, mais qu'est-ce que c'est que ça aussi? On ne voit pas ça dans la vie. Ne discutez pas. On ne peut pas mettre Dieu en boîte. Dieu, que je sache, est libre de faire ce qu'il veut. Mes amis, Dieu est un Dieu de miracle, mais il n'est pas un Dieu anarchique. Il est un Dieu qui agit selon sa parole. Amen. Si le Saint-Esprit a dit de faire comme cela au début de l'Église chrétienne, il n'a pas changé d'avis pour faire le contraire de ce qui est écrit. Dieu est un Dieu de miracle, mais ce n'est pas un Dieu anarchique. Il agit selon des lois, selon sa parole. Amen. Alors voilà, la première chose, comme les chrétiens de Bérée, nous devons examiner et voir, et ne pas nous laisser impressionner ou nous faire taire lorsqu'on nous dit, tu n'as pas cherché à comprendre, tu dois accepter, mes amis, un tel raisonnement fera de vous, si vous l'acceptez, un chrétien qui bâtit sur le sable. Vous acceptez les choses insensées, ridicules. Vous êtes en train de bâtir sur le sable. Et un jour, le vent va souffler. Et vous verrez la catastrophe qui en résultera. Combien déjà de chrétiens qui ont accepté des choses aberrantes, extra-bibliques, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Leur maison s'est écroulée dangereusement, jusqu'à certains qu'on trouve dans des maisons, oui, de fous. Tellement ils ont été déréglés, déboussolés, parce qu'ils ont accepté des choses insensées. Mes amis, Dieu est un Dieu de sagesse, de perfection. Ce qu'il fait, il le fait toujours dans la sagesse, dans l'équilibre et dans la perfection, n'est-ce pas vrai? Alléluia, c'est là sa signature. Mais il ne signe jamais des choses ridicules et insensées. Voilà. Le premier fondement, c'est une foi prudente. Le sage qui bâtit sur le roc. Vous avez le droit d'observer, d'examiner, comme les chrétiens de Bérée, acte 17, 11. Et le verbe examiner dans le texte grec veut dire. Allez, examinez sérieusement, aller jusqu'à l'origine de quelque chose, pour voir d'où ça vient. C'est très important de voir d'où vient tel enseignement, d'où vient telle expérience. Aujourd'hui, beaucoup, on entend parler maintenant des paillettes d'or qui descendent dans certaines réunions chrétiennes. Des paillettes d'or. Et je lisais récemment, c'est dans notre brochure, sur le retour du Seigneur, un journal allemand topique donnait cette information que ces expériences de paillettes d'or ont été manifestées par un enfant au Brésil, il y a des années en arrière, et c'est dans une secte Macumba que des prêtresses ont expérimenté cela. Des prêtresses spirites qui ont expérimenté cela et qui maintenant, voilà, ça se passe dans les églises. Et là, on même nous dit ça vient du Saint-Esprit, alors que dans ces lieux-là, ça, on sait très bien d'où ça vient. Voyez-vous, si vous n'examinez pas, si vous ne cherchez pas, on vous fera tous croire, tout croire que ça vient du Saint-Esprit. Et on profite de votre ignorance. Est-ce que tu bâtis ta maison sur le roc ou sur le sable? Est-ce que tu es facilement, tu acceptes facilement? Oh oui, oui, oh, c'est mon pasteur qui a dit ça, mon pasteur, c'est quoi, c'est un gamin? Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Alors là, c'est la chose la plus grave qui puisse arriver. Tout homme peut se tromper, n'est-ce pas? Moi le premier. Tout homme peut se tromper. Nous ne devons jamais suivre une personne avec les mains. Jamais. Tout examiner. C'est cela, le chrétien qui est bâti sur le roc. Il n'y a pas d'histoire. Moi, le roc, c'est Jésus. Mais ici, c'est sa parole. Le roc ici. Vous avez bien vu, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera sans valeur. Ici, le roc, souvent dit que c'est Jésus. Mais le contexte nous montre que c'est sa parole. Bien sûr, c'est Jésus. Mais l'accent est mis sur sa parole. Donc, d'où l'importance de veiller, de ne pas bâtir sur le sable. Et puis, voilà, hop, même si c'est ridicule ce qu'on fait, est-ce que tu es prêt à faire des choses ridicules, insensées, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu? Il y a des chrétiens comme ça. C'est dangereux. Si tu as accepté cela, ta maison est déjà bâtie sur le sable. Et un jour, le vent va souffler. Les inondations vont venir. Le cyclone va frapper. Et ta maison s'écroulera. Ne te plains pas contre Dieu à ce moment-là. Et ne dis pas, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as abandonné. Ce n'est pas le Seigneur qui t'a abandonné. C'est toi qui as abandonné le Seigneur et sa parole. C'est toi qui as abandonné sa parole. Il convient à moi, écoute ma parole, est la meilleure pratique. Celui-là est une personne qui bâtit sur le roc. Le vent soufflera, la pluie tombera. Les inondations viendront, la maison tiendra debout. Alléluia. Dans ces temps d'ébranlement, de confusion, mes frères et sœurs, voilà, vous devez bâtir votre maison sur le roc de la parole de Dieu. Et ne pas jouer avec ces paroles. Ne pas dire oui, mais moi oui, mais oui, vous êtes d'accord, moi je crois la parole de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. La parole de Dieu est l'autorité finale. Tu ne peux rien ajouter, ni rien retrancher. Ce n'est pas le tout de Dieu que je prends la parole de Dieu. Parce qu'il y en a qui, tout cela, ils croient. Mais ils en ajoutent ou ils en retranchent. Et c'est la piège. La parole de Dieu est l'autorité finale. Si ce n'est pas dans la parole, si Jésus et les apôtres n'ont pas prêché ou pratiqué ce que vous entendez, vous voyez, vous devez le rejeter systématiquement. Amen. Voilà la sagesse. Voilà une attitude sage. Il fera que votre maison ne s'écroulera pas. Alléluia. Voyons un deuxième fondement. C'est dans l'évangile de Luc, que dans le chapitre 6, il est dit qu'avant que le sage bâtisse sa maison, il est dit qu'il a creusé bien avant. Amen. C'est ça, donc c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 6, versets 46 et 49. Nous voyons là un point important. Cet homme, avant de bâtir,
Il a creusé et creusé. Qu'est-ce qu'il y a là? Une foi? Il y a quelque chose de plus. Tout à l'heure, c'était une foi prudente et non pas une foi aveugle comme cela et insensée. Maintenant, c'est une foi. Celle qui demeure, c'est celle qui a passé par une profonde repentance. De certaines de vos passions, de certaines choses qui ont déshonoré Dieu dans votre vie, de certaines pratiques occultes, de certaines idoles, toutes ces choses, ce sont des pierres qui sont là. Et si vous bâtissez dessus, mon ami, la maison s'écroulera. Mais le sage, lui, avait une foi qui était bâtie sur un cœur repentant. Il a creusé. Il a dit, avant que je construise ma maison sur le roc, il faut d'abord que j'enlève beaucoup. Pour atteindre ce roc, il fallait enlever beaucoup de cailloux, beaucoup de pierres, beaucoup de rocailles, beaucoup de saleté. Et il a dit, moi je vais le faire. L'autre, il n'avait pas le temps de le faire. L'autre, il n'avait pas envie de le faire. Et lui, il était prêt à le faire. Voyez-vous pourquoi cette foi, sa foi a tenu? Parce que c'était une vraie foi qui était le fruit d'une vraie repentance. Il a creusé bien avant. Et beaucoup aujourd'hui croient au Seigneur Jésus, mais ne sont jamais passés par une repentance, jamais. La preuve que quelqu'un qui croit et qui n'est pas passé par la repentance, c'est que cette personne n'est pas transformée. Elle est toujours la même. Pas de changement. Ils disent oui, amen à tout ce que vous dites, mais il n'y a rien de changé. Toujours la même mauvaise langue, le même mensonge, les mêmes passions, les mêmes idoles, il n'y a rien. Peut-être une petite chose comme par-ci, par-là, un petit peu, mais fondamentalement, il n'y a rien de changé. Ils n'ont pas creusé. Avez-vous remarqué l'expression? Il a creusé. Jésus a dit, creusé. Voyez-vous, c'est une foi sincère qui va au fond. Et avant de croire au pardon, c'est quelqu'un qui s'est repenti de ses péchés. Il a creusé, il a demandé pardon pour ses péchés. Tout ce qui a déshonoré Dieu dans sa vie, il ne l'a pas caché. Au contraire, il l'a mis à la lumière. Amen. Il ne l'a pas enfoui. Comme beaucoup font. Au lieu de dévoiler notre péché à la lumière du Seigneur, nous le cachons. Mais si nous le cachons, c'est à nos risques et périls. Un jour le vent soufflera et la maison s'écroulera. Un jour ça viendra, car ta foi va être testée un jour. Et alors à ce moment-là, ce sera visible aux yeux de tous. Mais Dieu dans sa grâce veut que ce soit visible seulement pour toi, pour moi. Il faut mieux que tu te rends compte, toi, et que personne ne sache. Mais si tu veux cacher les choses un jour, ce sera tout mis à la lumière. Et grande a été la ruine de cette maison. Grande a été la ruine. Pendant un temps, tout allait bien. Tant que le vent n'était pas là, tant que l'épreuve n'était pas là, tout allait bien. Mais un jour, Dieu enverra la tempête. Dieu enverra la pluie pour tester ta foi, pour savoir où elle est fondée. Amen. Alors voyez-vous, le deuxième fondement d'une foi inébranlable, c'est une foi qui est bâtie sur un cœur repentant. Quelqu'un qui a confessé ses péchés et qui les a abandonnés. Amen. C'est pas le tout de confesser ses péchés. Beaucoup confessent leurs péchés, mais ne les abandonnent pas. Et ils sont toujours les
Vous avez beaucoup, il y en a qui ont des larmes, des crocodiles aussi. À vous là les entendre, vous êtes presque touchés. Vous pleurez aussi. Vous êtes touchés.
À peine sorti de la salle, rien ne change. Rien. On a l'impression que ce n'est pas la même personne qui a pleuré. On a l'impression que rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de repentance. Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Ce n'est pas le tout de dire pardon. Seigneur, il faut dire maintenant, Je creuse, j'enlève. Je ne veux plus garder.
Ne garde rien dans ta vie qui peut déshonorer Dieu et qui t'empêche d'aller de l'avant. Creuse. Confesse et abandonne une fois pour toutes avant que ta maison s'écroule ou ça pourrait être la catastrophe. Mais la foi qui demeure, c'est celle qui est passée par la repentance, qui a pleuré sur son péché et qui l'a abandonné une fois pour toutes. Amen. Les Thessaloniciens, il est dit qu'ils se convertirent à Dieu en abandonnant les idoles. 1 Thessaloniciens 1. Ils se convertirent à Dieu en abandonnant les idoles. Voyez-vous, ils se sont détournés de leur péché, de leurs idoles, et après se sont convertis à Dieu. Ils ont tout abandonné maintenant. On peut être chrétien sans abandonner ses idoles. On peut encore prier, Marie, les saints, et n'importe qui, et encore se croire être sauvé. Quelle illusion! Quel mensonge! C'est un autre évangile! C'est pourquoi Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je ne sais pas le tout! Je dis, oui, mais je sais. Ce n'est pas suffisant. Il faut dire maintenant, je confesse et j'abandonne ce qui te déshonore. Amen. C'est là qu'il y a la libération. Alléluia. Quelle joie après, lorsque on abandonne. Quelle joie, la joie du pardon, la joie de la libération est extraordinaire. Sinon, nous pouvons traîner un boulet pendant des années et des années. Et on peut demander à tout le prédicateur, priez pour moi, je l'ai pour moi. Et encore, on leur dit, combien de temps vous allez jeûner? Ça ne marche pas, hein, quand vous priez là. Un jour, j'ai jeûné. Ce n'est pas un jour, c'est 10 jours qu'il fallait jeûner. Vous voyez, ils sont prêts à vous imposer leur jeûne. Mais eux, surtout pas de changement pour eux. On bâtit sur le sable. Et tout va très bien. Et c'est ainsi qu'on se fait des illusions. Et qu'on fait le reproche à tout le monde, sauf à soi-même, quand ça ne va pas. On est toujours les premiers à dire, ah ouais, mais l'autre il a prié, ça marche pas, l'autre a prié, et l'autre est sorti. Voilà, on trouve toujours des excuses, alors que le problème est là, où on est. Une foi inébranlable, c'est la foi qui est passée par la repentance. Amen. La creuser, comme Jésus l'a dit. Creuser, voyez-vous, ça va en profondeur. Quand on devient chrétien, mes amis, c'est pour devenir une nouvelle personne. N'est-ce pas vrai? Moi, je ne comprends pas certains chrétiens qui se disent, ils sont là, même après leur conversion, il faut toujours les retenir, pour pas qu'ils fassent le mal. Qu'est-ce que c'est que cette conversion? Ils sont toujours tentés par la moindre chose. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'es pas repenti? Pourquoi tu es encore en? Je ne veux pas dire qu'on n'a pas de combat, mais ils sont là toujours en train d'être tentés. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas abandonné vraiment leur ancienne vie. Ils en ont encore envie. Ils veulent bien encore suivre le Seigneur, mais aussi goûter aux joies du monde. Et voilà pourquoi on est toujours là en train de les retenir ou de les surveiller. Dès qu'ils s'en vont, ça y est, on se demande quelle catastrophe ils vont encore faire. Et pourtant, elle se dit ou elle se dit chrétienne. Quel malheur! Quand on devient chrétien, on n'a plus envie de faire les choses d'avant. Amen. On n'a plus envie. On a vomi tout cela. C'est terminé pour toujours. Alléluia. On n'en a plus envie. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de combat, de problème. Mais dans le cœur, la décision a été prise. C'est infini. Une nouvelle vie commence. J'ai bâti sur le roc. J'ai creusé. Est-ce que tu as assez creusé profond dans le sens que... Est-ce que vraiment, tu hais ton péché? Est-ce qu'il te tourmente? Est-ce que tu veux vraiment une fois pour toutes dire non, c'est terminé maintenant. C'est une foi qui est bâtie sur la repentance. Amen. Alors là, il y a un changement. Là, il y a un témoignage. Un troisième fondement. La foi du sage est une foi réaliste. Il est réaliste. Tandis que là, la foi de l'autre, c'est un idéaliste. Parce que l'insensé ne se prépare pas pour des jours difficiles.
voyez, il bâtit sur le sable et il ne se prépare pas pour les jours difficiles. Il pense que ce sera, il fera toujours soleil. Voyez-vous, il est un peu, c'est un idéaliste. Il y en a qui plaident complètement. Parmi les chrétiens, ils plaident complètement. Leur vie chrétienne, que fait cette vie? Ils veulent une vie chrétienne. Alléluia. Alléluia. C'est de gloire à Dieu. Voilà. Que des conventions. Tout doit bien se passer. C'est merveilleux. Vous voyez, c'est que ce côté-là. Mais ils ne veulent pas de vie chrétienne. Amen. Il faut être un chrétien. Alléluia. Mais il faut aussi être un chrétien. Amen. Ça, c'est l'équilibre. Mais eux, ce sont des chrétiens. Alléluia. C'est tout. Tant que tout va bien. Oh là là. Ordinaire. Mais dès que quelque chose ne va plus, voyez-vous, dès que une goutte commence à tomber, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Comment ça se fait qu'une goutte qui tombe? L'inondation commence à arriver. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, Seigneur? Seigneur, fais quelque chose, j'ai un miracle. Non, il ne fera pas de miracle, Seigneur. Non, l'inondation va venir. Il y a un cyclone qui est en train d'arriver, Seigneur, fais un miracle. Il ne fera pas de miracle. Le miracle, il veut le faire en toi. Il veut que tu tiennes debout dans le cyclone, dans la tempête, dans l'inondation. Il veut que ta maison tienne debout. Alléluia. Et quand ta maison tiendra debout dans l'inondation, la tempête, le cyclone, toi-même, tu te réjouiras. Tu te diras, Seigneur, c'est merveilleux. Alléluia. Ma maison est bien bâtie. Je suis content, Seigneur. Alléluia. Les autres le verront et tu seras un merveilleux témoignage. Amen. Mais si ta maison s'en va, où est ton témoignage? C'est terminé. Regardez l'autre là-bas, qui chantait bien Alléluia, mais après elle est tout maintenant. Il est en train de se noyer. Ah oui, c'était un chrétien Alléluia, mais ce n'était pas suffisant. Il faut un chrétien Amen. Chrétien Amen, ta volonté soit faite, Seigneur. Le chrétien n'est pas un idéaliste, c'est un réaliste. On voit les choses comme elles sont. La vie chrétienne, l'apôtre Paul lui-même le disait aux premiers chrétiens, que nous sommes destinés à avoir des tribulations. Et vous savez, dans certains milieux chrétiens, surtout les milieux un peu où on prêche la foi à outrance, quand vous parlez de persécution, on dit c'est un manque de foi. Quand vous êtes persécuté, c'est parce que vous manquez de foi. Quand vous souffrez à cause de votre foi, c'est un manque de foi. Regardez-moi ça. Quel évangile! C'est des chrétiens, Alléluia. Mais un jour, le vent va souffler, la tempête va souffler. Et ils auront beau dire, Alléluia, Alléluia, ta maison s'écroulera. Parce qu'il y a aussi un autre aspect. Le sage. Il dit, je ne peux pas partir sur ce sable, c'est pas possible. Il fait beau aujourd'hui, d'accord? Mais il va pas toujours faire beau. Le soleil va s'obscurcir, les nuages vont venir. Et un jour, je serai éprouvé. Il est sage. Il pense à tout cela. C'est un réaliste. Il a les deux pieds sur la terre. Que le chrétien plane complètement. Complètement. Et quand l'épreuve arrive, il perd les pédales complètement. Il n'y a plus rien. Le chrétien est là à la fois. Chrétien qui est sage, à une fois réaliste, il est prêt à affronter les difficultés. Amen. Il est prêt. Parce qu'il sait que ça fait partie de la vie chrétienne. Parfois, Dieu nous délivre de nos épreuves, de nos problèmes, mais parfois, il ne nous en délivre pas du tout. Il permet que nous nous soyons changés dans l'épreuve. Et dans les difficultés. Amen. Ça, c'est encore une plus grande victoire. Que Dieu change vos épreuves. C'est bien. Mais que vous vous changiez dans l'épreuve. C'est encore un plus grand miracle. Et c'est ce que Dieu veut faire. Voilà pourquoi souvent vous priez au Seigneur, Seigneur, délivre-moi de ceci, délivre-moi de cela. Le Seigneur ne t'en délivrera pas. Parce qu'il veut que dans cette épreuve, tu puisses crier à lui. C'est toi qui dois changer, c'est pas l'épreuve. Et quand l'épreuve t'aura changé, toi, tu seras vainqueur à ce moment-là. Tu verras que ta maison est partie sur le roc. Tu seras étonné de voir comment, quand le vent souffle, la pluie tombe, l'inondation arrive, tu restes debout. C'est merveilleux, ta foi.
Seigneur sera ton secours, sera à ta droite. Et les autres verront et auront un témoignage merveilleux à rendre. Amen.
Voilà une foi inébranlable. Je vais bientôt terminer. Une autre qualité, une foi éprouvée. Le sage a une foi qui est éprouvée. L'insensé perd sa foi dans l'épreuve. Tandis que le sage, lui, est fortifié par l'épreuve. Amen. Voilà un autre point important. Comment avoir une foi inébranlable? Il faut que ma foi, ta foi, soit fortifiée dans l'épreuve. C'est là le but de l'épreuve. Tandis que l'insensé, le fou, qu'est-ce qui se passe quand le vent souffle? Sa maison s'écroule. Autrement dit, l'épreuve détruit la foi de l'insensé. Non, c'est plus possible maintenant. Non, j'en ai trop vu. Non, c'est fini, je ne peux plus croire. Non, c'est terminé. Mais non. Ah, voyez-vous, sa foi est détruite. L'épreuve, les problèmes, la pluie, l'ouragan, l'inondation a détruit la foi de l'insensé. La maison s'est écroulée. Tandis que le sage, au contraire, sa foi est fortifiée dans l'épreuve. Si bien que il est toujours prêt à affronter de nouvelles épreuves. Parce que chaque épreuve le rend encore plus fort que par le passé. Alléluia. Et chaque épreuve le fortifie. J'avais lu un jour ce témoignage. Dans l'Antiquité, on raconte qu'un colosse avait dit qu'un jour, il porterait un bœuf. Tout le monde s'est moqué de lui. Comment un bœuf? Jamais. Eh bien, dis-moi, j'ai dit qu'un jour, je porterai. Soulève-moi un bœuf. Et vous savez comment il a fait? Il a d'abord commencé. Ah, il n'a pas tout de suite commencé avec un bœuf. Avec un poulet. Un colosse, un poulet. Après, c'est un agneau. Une chèvre. Un bouc. Un veau. Et il a pris ainsi des poids différents. Et chaque fois que le poids devenait plus fort, il se fortifiait. À un moment donné, il a dû prendre, une bête assez importante. Et alors là, il a soulevé, mais au fur et à mesure qu'il soulevait, ses muscles se formaient. Ce qui fait que l'épreuve le fortifiait. Et chaque fois, il prenait un poids supérieur. Ce qui fait que chaque fois, il pouvait porter un peu plus. Et le jour est arrivé, il a porté le bœuf. Et il a gagné son pari. Pourquoi? Parce que ses épreuves le fortifiaient. Chaque fois qu'il portait un peu plus, il était fortifié. Il en est de même pour nous, mes amis, en tant que chrétiens. Alléluia. Tes épreuves sont faites pour te fortifier. Non pas pour t'écraser, non pas pour te détruire. Porte-les. Dieu les dose. Dieu les a dosés. Ne dis pas, oh, c'est trop. Non. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes... Mais avec la tentation, il te donnera la force, la sagesse pour que tu puisses tout supporter. Tout est dosé par la main de notre Seigneur. Alléluia! Ce qu'il envoie n'est pas fait pour te détruire, mais pour te fortifier. La foi du sage est fortifiée par l'épreuve. La foi de l'insensé est détruite par l'épreuve. Voilà une autre différence. Quel genre de foi as-tu? Celle du sage ou celle de l'insensé? Puissions-nous avoir toute cette foi du sage, de l'homme ou de la femme prudente, qui se fortifie au travers de toutes les épreuves. Amen. Un jour, je m'appellerai toujours, mais je vais terminer, un serviteur de Dieu, quand des épreuves venaient dans sa vie, vous savez ce qu'il faisait? Des choses difficiles, il se frottait les mains. Ah, il a dit, je me réjouis maintenant de voir ce que le Seigneur va faire au travers de ces épreuves. et au travers de ces difficultés. Je me réjouis. Romains 8:28. Mais nous savons du reste que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia.
Il avait vraiment l'attitude victorieuse.
La foi inébranlable.
Mes amis, Dieu vous soutiendra dans l'épreuve.
Dieu purifiera votre foi dans l'épreuve, mais vous en fera sortir vainqueur.
Alléluia. Je termine par un dernier point. La foi du sage est une foi personnelle. Il a creusé personnellement, n'est-ce pas vrai? Il n'a pas demandé à quelqu'un d'autre de creuser. Il a creusé personnellement et il a touché le rocher lui-même, n'est-ce pas vrai? Donc c'est une foi personnelle. Qui tiendra dans ces temps de la fin, la foi inébranlable est la foi personnelle de chacun. Trop de chrétiens comptent sur le pasteur, sur un frère, sur une sœur. Ah, le frère n'est pas là, la sœur n'est pas là, ma journée est gâchée. Oh, on ne m'a pas téléphoné aujourd'hui. Cette personne qui s'occupe de moi ne m'a pas téléphoné. Ils m'ont tous abandonné. Ça, c'est fini. Ah, voilà. Où est ta foi? Ta foi passe par les uns ou par les autres?
Eh bien, un jour, elle s'écroulera. Elle s'écroulera cette foi.
Il a creusé bien avant. Celle qui tiendra, c'est celle qui a une foi personnelle, qui s'accroche personnellement au Seigneur, qui recherche personnellement le Seigneur, qui obéit personnellement, qui pioche sa parole. Alléluia! Les autres peuvent nous aider, mais ils ne doivent jamais remplacer notre foi. Jamais! Jamais! Tu dois avoir ta foi personnelle qui te permettra de tenir et de remporter une victoire. Une foi personnelle. Un homme avec Dieu est une majorité. Un jour, quelqu'un a dit ça, c'est bien merveilleux. 100 000 hommes sans Dieu, c'est une triste minorité. Sois du bon côté. Sois avec Dieu. Un homme avec Dieu est une majorité. Une femme avec Dieu, c'est une majorité. Et une foi personnelle. Est-ce que tu passes toujours par l'un ou par l'autre? D'avoir une réflexion personnelle. Et quand l'un dit blanc, l'autre dit noir, tu es perdu. Beaucoup de chrétiens sont dans la confusion. Ah, je ne sais pas prier pour moi. L'un dit blanc, l'autre dit noir. Vous dites ça. Et puis dès que j'entends quelqu'un d'autre, il dit autre chose. Priez pour. Voilà, ah, où est la confusion? C'est parce que vous n'écoutez pas la parole. Vous ne contrôlez pas par la parole ce qu'on vous dit. Si c'est dans la parole, vous devez dire amen. Si ce n'est pas dans la parole, vous devez dire non. Voilà. Le fondement d'une foi inébranlable. Amen. Puissions-nous être ces chrétiens sages qui ont bâti, mais qui ont creusé bien avant, et qui ont bâti sur le roc de la parole. Ne jouons pas avec cette parole. Ne disons pas que nous croyons cette parole et que nous n'oublions pas. Beaucoup disent, même que je crois la Bible. Mais là, c'est leur dernier souci d'obéir à la Bible. C'est leur dernier. Elles obéissent quand tout va bien. Ah, pour les promesses de bénédiction, pour de guérison et tout ça, quand de l'argent doit rentrer, ils sont les premiers à venir devant. Priez pour moi. Pour être bénis, ça sera les premiers. Mais pour obéir, il n'y a plus personne. D'un seul coup, vous les voyez sortir. Ah, mais j'ai mon métro, le métro. Je dois partir, il y a les enfants qui attendent. Ah, d'un seul coup. Mais si c'était pour la bénédiction, on attendrait jusqu'à minuit ici. Jusqu'à minuit. On est prêt à obéir quand ça nous arrange. Mais quand ça nous dérange, rien du tout. Pourquoi Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Cela fait mal aux oreilles du Seigneur. Vous dites Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Puissions-nous être ces chrétiens sages qui non seulement entendent, mais sont décidés à la mettre en pratique. Et votre maison sera éprouvée. Car il faut que votre maison soit éprouvée. Toute vraie foi sera éprouvée. Un jour, vous serez éprouvés. Puissiez-vous avoir une maison qui résiste. Et vous serez ainsi un témoignage à la gloire de Dieu. Et vous pourrez ainsi glorifier le Seigneur davantage. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier. Encore pour ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur de savoir.
Amen.
Que ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Nous ne voulons pas seulement la croire, cette parole. Et ensuite nous en aller. Comme des auditeurs oublieux.
Amen.
Sans rien considérer. Oh oui, il a bien parlé, et c'est tout. Seigneur, garde-nous de bâtir sur le sable, de l'indifférence, de la superficialité, de la négligence. Garde-nous, Seigneur, car un jour tu nous testeras.
Oui.
Et la maison s'écroulera. Puissions-nous bâtir sur le roc de ta parole, qui seul pourra tenir debout. Trouvons-nous des cœurs obéissants à ta voix et à ta parole. C'est alors que nous aurons ton approbation. Cela va bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Puissions-nous tous entendre cette voix-là, le jour où nous nous présenterons devant toi. Pour ta seule gloire, Seigneur, nous voulons être ces hommes et ces femmes sages et prudents. Utilise-nous et façonne-nous ton image. Et cette foi inébranlable pour la gloire de ton nom et pour le bien de plusieurs de ceux qui nous entourent. Amen.
Amen.
Restons dans la prière en tant qu'être sain. Restons dans le recueillement devant le Seigneur.
Comme il a été dit, comme le Seigneur l'a si bien souligné, nos vies ressemblent à des maisons. Elles ont des fondements différents, différentes fondations, mais une maison peut aussi avoir des failles, des fissures. Et parfois le Seigneur vient colmater ces fissures. Parce que nous avons des réactions dans nos vies, nous avons des attitudes dans notre vie qui sont comme des failles dans notre maison. Et ces paroles m'ont été données qui viennent confirmer ce qui vient d'être dit pour certaines circonstances bien particulières au milieu de nous. Ces paroles m'ont été données la semaine dernière, c'est pour cela qu'elles sont notées. Le Seigneur s'adresse à une personne ici, qui se demande pourquoi tant de souffrances dans sa vie. Et voici la réponse que le Seigneur te dit. Pour que tu aies une meilleure attitude et que cette fissure-là soit colmatée parce qu'elle empêche ta maison d'être solide tant que tu crois que cette souffrance est là pour te détruire ou pour te faire du mal. Alors le Seigneur te dit, mon enfant, réalise qu'aucun de mes enfants n'est préservé d'une sorte de souffrance ou de l'autre. Tu n'es pas la seule de mes enfants dans cette situation, te dit le Seigneur. Je voudrais que tu réalises que par cette souffrance même par laquelle tu passes, je veux te communiquer une certaine joie céleste. Et je ne peux le faire que par ce moyen-là. Le Seigneur est sage. S'il permet certaines circonstances, certaines souffrances dans notre vie, c'est parce qu'il veut nous communiquer quelque chose. Ce n'est pas pour nous faire du mal. Que cette parole te rassure, te dit le Seigneur. Cette souffrance ne te blessera pas si elle est accompagnée de ta soumission à ma volonté. Cette souffrance n'est pas destinée à te détruire, mais à te rendre plus forte, plus confiante et plus soumise à ma volonté parfaite pour toi. Voilà une réponse de la part du Seigneur. Ce n'est pas toujours la volonté du Seigneur d'éloigner de notre vie toute souffrance. Parfois, il a besoin d'utiliser la souffrance pour nous parler, pour nous changer, pour nous transformer, n'est-ce pas vrai? Et maintenant, le Seigneur voudrait aussi parler à une personne qui a fait beaucoup de projets dans sa vie. Et le Seigneur voudrait t'avertir de mettre des fondements à ta vie et de mettre des priorités à leur place. Mon enfant, te dit le Seigneur, tu as préparé beaucoup de projets pour toi et ta famille. Mais sais-tu, mon enfant, si tu vivras demain, ta vie ne t'appartient pas. Elle est dans ma main. Et que te servirait-il, te dit le Seigneur, si tous tes projets s'accomplissaient, mais que tu perdes ton âme? Les biens que je t'ai donnés ne sont-ils pas une grâce de ma part?
Je voudrais que tu mettes des fondements à ta vie. Des priorités, priorités à leur place. Je voudrais à nouveau être le seigneur de ta vie, de tout ce que tu entreprends, jusque dans les moindres détails. Ne compte pas sur tes propres forces. Je t'ai accordé la vie pour que tu me serves et que tu m'honores par ta vie. Seigneur, aide ces personnes à colmater ces brèches dans leur maison.